le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, il est temps d'égrener le temps avec les plus belles chansons françaises. Mai 1988. Le 4 mai, les otages français enlevés au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kaufmann sont libérés après 1138 jours de captivité pour les deux premiers et 1077 jours de captivité pour le troisième. Des militaires et le GIGN prennent d'assaut la grotte de Gossana pour libérer les 23 otages retenus prisonniers sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie par le FLNKS. Deux militaires et 19 indépendantistes sont tués. C'est aussi l'année de l'élection présidentielle.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Mitterrand.
Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Chirac.
Bonsoir.
Messieurs, nous accueillons ce soir sur ce plateau de télévision deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Ce débat était attendu, c'est peu de le dire. Ce débat est maintenant devenu une tradition dans la vie politique française depuis 1974. C'est donc le troisième, 74, 81 et maintenant 1988. Nous vous remercions d'avoir accepté l'un et l'autre que les deux grandes chaînes nationales de télévision, Antenne 2 et TF1, l'organisent selon des règles précises.
Chaque candidat disposeront d'environ 50 minutes, de 50 minutes précisément. Nos interventions seront décomptées à part, les deux interventions des journalistes. Et enfin, vous aurez droit, chacun d'entre vous, à 3 minutes de conclusion. Nous avons divisé ce débat en quatre parties. 30 minutes pour la politique intérieure et les institutions, 30 minutes pour l'Europe et les problèmes économiques et sociaux, 20 minutes pour les problèmes de société, 20 minutes enfin pour la politique étrangère et la défense. Les temps de parole de chacun d'entre vous, j'en insiste sur ce point parce que c'est important, les temps de parole de chacun d'entre vous doivent être équilibrés à la fin de chacune des parties.
Une campagne électorale ne permet pas tout. De notre côté, la cohabitation a été voulue par le peuple français. Et nous avons respecté sa volonté. Et donc, pendant le temps qui nous a été donné, nous avons veillé aux intérêts de la France. Bien entendu, cohabiter lorsque l'on vient de deux majorités différentes, élues à des moments différents, cela suppose, comme on dit, une dialectique, une discussion. Les points de vue, a priori, ne sont forcément pas les mêmes. Si l'on veut défendre les intérêts de la France, surtout sur le plan extérieur, et s'exprimer d'une même voix, il faut se mettre d'accord. Bien entendu, sans renoncer à être ce à quoi l'on croit le plus. Et il faut veiller à trouver le chemin moyen, qui reste absolument dans la ligne de ce qu'il convient de faire, et en même temps compatible avec la pensée de chacun. En tout cas, avec ma pensée, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ensuite, la campagne électorale, elle s'est déroulée au cours de ces dernières semaines. On reprend une certaine liberté, il ne faut pas en prendre trop. Je me suis présenté, m'a-t-on dit, assez tardivement. Je pense m'être tenu comme il convenait de se tenir et je ne peux pas en dire davantage. Il est normal que le débat ait lieu.
C'est vrai que la cohabitation a été voulue par les Français et qu'elle était inévitable dans la mesure où elle correspondait un vœu clairement exprimé. Elle s'est déroulée, je crois pouvoir le dire, dans des conditions qui ont été facilitées par nos institutions et par une certaine idée que se fait dans son ensemble notre pays sur les problèmes de politique étrangère. Essentiel à la dignité qu'on doit le respecter.
Le 8 mai 1988, c'est le second tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand est élu, réélu à la présidence avec 54% des voix contre 46% à Jacques Chirac sur une politique du ni-ni, ni privatisation, ni nationalisation.
Bonjour à tous et merci de nous recevoir. J'ajouterai si nombreux et j'y reviendrai à la fin de ce journal parce que nous sommes contents de vous. Hier soir, vous étiez plus de 25 millions à regarder Antenne 2. Alors au fur et à mesure que se confirmait le résultat que nous vous donnions dès 20h et qui n'a pas beaucoup changé, Patricia vous le disait il y a un instant, des manifestations de joie éclataient un peu partout en France. Au cours du résumé que vous allez voir maintenant, nos reporters ont aussi visité des lieux stratégiques comme Château-Chinon ou comme les QG de campagne.
Et dans la capitale, les partisans de François Mitterrand se sont donné rendez-vous à la République pour fêter ce succès. Voici donc avec tous nos envoyés spéciaux les images les plus fortes de cette nuit avec d'un côté les rires et de l'autre les regrets. Claude Crespo.
Est-ce que vous pleurez ?
Un dernier jour, moi tellement je suis heureuse. J'étais tellement tendue que c'est formidable.
Leur réaction à chaud est unanime, la déception.
Bah, je suis vraiment très déçue.
Pour nous à Marseille, ça va aller mieux, la gauche est repassée, tout ira mieux, Le Pen, on n'en parle plus, les Marseillais seront tous ensemble, enfin c'est vraiment génial.
Il y a les générations des gagnants, les générations des perdants, alors moi j'ai perdu, et toi t'as gagné.
Moi j'ai gagné, je suis contente.
Comédie de soutien de Jacques Chirac à Lyon, 20h, c'est l'amertume et même la colère chez les plus jeunes, des militants qui voulaient y croire jusqu'à la dernière minute.
Ça représente une déception, mais j'espère que Mitterrand fera des choses bien, comme il les a faites de 83 à 86. J'espère qu'il ne recommencera pas les mêmes bêtises que de 81 à 83, c'est tout.
Le goût de la défaite. Consternation pour des jeunes militants qui menaient là pour certains leur première campagne. Leur réaction à chaud est unanime, la déception.
C'est raté, quoi. Mais enfin, la bataille n'est pas perdue.
Le 10 mai 1988, Michel Rocard, Premier ministre, forme son premier gouvernement. Le 14 mai, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Les 5 et 12 juin, aux élections législatives, le Parti socialiste manque de quelques sièges, la majorité absolue, et décide de composer avec des élus centristes une stratégie d'ouverture au centre. Le 18 juin, c'est la présentation de la Renault 19 commercialisée en septembre. Laurent Fabius est élu président de l'Assemblée nationale. Les accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie sont conclus entre une délégation indépendantiste menée par Jean-Marie Djebaou et une délégation anti-indépendantiste dirigée par le député Jacques Lafleur, réunie par Michel Rocard. Le 26 juin 1988, un crash a lieu, c'est le crash de Hamsheim. Un Airbus A320 s'écrase dans une forêt lors d'un vol de démonstration, avec 136 personnes à bord durant un meeting aérien près de l'aérodrome de Mulhouse-Absheim dans le Haut-Rhin. L'accident fait 3 morts. Il y a aussi un grave accident ferroviaire en gare de Lyon qui fait 56 morts et 55 blessés le 27 juin 1988. Le 28 juin, c'est l'entrée de ministres centristes au nom de l'ouverture et de la société civile dans le second gouvernement de Michel Rocard. Monseigneur Lefebvre, archevêque français, est excommunié par l'Église catholique romaine. Le sacre de 4 évêques par l'intégriste catholique Monseigneur Lefebvre à Écône parachève le schisme de la fraternité sacerdotale Saint Pie X, désormais séparé de l'Église catholique et romaine. Nuit de folie est une chanson interprétée par Début de soirée, duo formé de deux DJ du sud de la France, William Picard et Sacha Goélé, paru sur leur premier album Jardin d'enfants Enregistré et mis à la vente en juin 1988, le disque réalise cette année-là en France la meilleure vente de 45 tours avec 1 300 000 exemplaires. En France, il devient le tube de l'été, se classant en tête des ventes pendant plus de 2 mois. De style euro-disco, le morceau inclut également un passage de rap.
Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc.
Tu chantes, chantes, chantes.
Chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
La chanson écrite par William Picard et composée par Claude Mainguy et Sauveur Pichot a été spécialement créée pour devenir un tube de l'été, bien qu'elle soit sortie pour la première fois en 1984 en tant que face B, mais elle est passée inaperçue à l'époque. 1954, 1er février. C'est la vague de froid de l'hiver 1954. L'abbé Pierre lance un appel à la solidarité avec les sans-abri sur les ondes de Radio Luxembourg. Mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Cet appel citoyen donne naissance à un grand mouvement de solidarité sans précédent en faveur des mal logés. Le soir même, la RATP laisse ouvertes 4 stations de métro et la ville de Paris des écoles et des gymnases. Une collecte nationale d'argent et de vêtements est organisée. Le gouvernement promet la création de 12 000 cités d'urgence et l'Assemblée vote un budget de 10 milliards de francs.
Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3h, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible, tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleur nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci.
Après 15 années d'inactivité, Gabriel Chanel, 1883-1971, rouvre sa maison de couture le 5 février 1954 à l'âge de 71 ans. Sa première collection est mal accueillie par la presse. Le 6 février, Dien Bien Phu est encerclé par le Viet Minh. Le 11 février, décret portant organisation du Fonds de construction d'équipements ruraux et d'expansion économique créé par la loi du 11 juillet 1953. Cet organisme doit financer les investissements publics permettant le développement et le désenclavement du monde rural. Les industries sont incitées à se reconvertir pour absorber la demande du monde agricole et à une certaine décentralisation vers la campagne. La chanson pour l'Auvergnat est une chanson de Georges Brassens parue dans son troisième album « Les sabots d'Hélène » en 1954. Elle a été enregistrée le 28 octobre 1954 et figure dans une anthologie publiée aux éditions Segers dans la collection « Poètes d'aujourd'hui ». Ce texte écrit, mis en musique, chanté par l'artiste, fonctionne comme un apologue, plus précisément comme une fable moderne, dans la mesure où elle en renouvelle l'esprit et la forme. Selon certaines sources, la chanson aurait été inspirée par l'insurrection de la bonté, un appel passé par l'abbé Pierre pendant l'hiver 1954 pour aider les sans-abri. Néanmoins, cette hypothèse ne semble s'appuyer sur aucun document précis. Selon Jacques Vassal, biographe de Georges Brassens, le chanteur n'a jamais rencontré l'abbé Pierre.
« Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Le Déserteur est une chanson écrite par Boris Vian en février 1954, lors de la guerre d'Indochine, composée avec Harold Berg et enregistrée dans sa forme définitive l'année suivante. Son antimilitarisme a provoqué beaucoup de polémiques.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Boris Vian a publié sa chanson en 1954, à la fin de la guerre d'Indochine, 1946-1954, alors que la contre-offensive française face aux troupes du général Vo Nguyen Giap conduit à la défaite française de Dien Bien Phu, où 1500 soldats français sont tués. Pierre Mendès France doit ouvrir des négociations qui conduisent aux accords de Genève, signés le 21 juillet 1954. Le Vietnam, le Laos, le Cambodge deviennent indépendants. Puis, en novembre 1954, la Toussaint Rouge marque le début de la guerre d'Algérie, 1954-1962. À noter que seule cette guerre vit enrôlée des conscrits, la guerre dite d'Indochine ne comptant que des militaires professionnels et des volontaires. Autre temps, autre ambiance, les abus sexuels de l'abbé Pierre concernent des faits d'agression sexuelle et de viol commis par l'abbé Pierre sur des majeurs et une dizaine de mineurs des deux sexes. Ils sont révélés au fil de 4 rapports commandés au cabinet EGAE par Emmaüs International qui sont publiés en juillet et septembre 2024. Ainsi qu'en janvier et juillet 2025.
L'abbé Pierre est derrière son bureau. Il me dit « Tiens, viens t'asseoir là ». Il passe sa main entre mes cuisses et il appuie très fortement sur mes parties intimes. Et je sens son sexe en érection. Il me prend par la mâchoire, il sort sa langue, il la met dans ma bouche.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. À très bientôt.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.